Shannon aurait eu 14 ans le 30 mars dernier, un anniversaire qu'elle ne fêtera jamais. Il y a quelques jours, sa famille s'est résolue à la laisser partir après 3 semaines de coma. Shannon a été victime d'un viol alors qu'elle se trouvait chez l'une de ses amies à Rantigny, dans l'Oise. Un acte d'une telle violence qu'il lui a provoqué des blessures mortelles. 3 personnes ont depuis été mises en examen, notamment un jeune homme de 19 ans soupçonné d'avoir violé la jeune adolescente avant de prendre la fuite. Les obsèques de Shannon auront lieu la semaine prochaine. Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Avec vous, on va reprendre évidemment cette enquête. Tout d'abord, revenir sur cette affaire sordide qui a provoqué l'émoi et l'indignation dans la ville de Caufry, dans l'Oise. Les faits se sont produits le 6 mars dernier.
Oui, ce jour-là, Shannon, une adolescente de 13 ans, vous l'avez dit, se rend chez l'une de ses amies du même âge. Elles sont toutes les deux scolarisées dans le même collège à Caufry, donc dans l'Oise. La jeune fille, la jeune amie, elle habite à quelques kilomètres de là, à Rantigny, et selon nos informations, les deux amies auraient décidé de se retrouver et de passer un moment avec 2 autres garçons qu'elles avaient rencontrés quelques temps auparavant sur les réseaux sociaux. Ça va être l'un des points importants sur lequel l'enquête va porter, c'est de savoir dans quelles circonstances 2 jeunes garçons qui sont eux âgés de 18 et 19 ans, donc des écarts d'âge de 5 et 6 ans avec les deux collégiennes, comment ces 2 garçons sont arrivés au domicile de l'ami de Shannon. A priori, les 4 jeunes s'étaient d'abord échangé des messages sur Snapchat. Mais qui a contacté qui? Qu'est-ce qui s'est dit dans ces messages? Qui a invité qui? Tout cela va être vraiment à déterminer par les investigations. Shannon, en tout cas, s'est retrouvée seule en compagnie du garçon le plus âgé, donc celui de 19 ans. Son amie est allée, elle, dans une autre pièce avec l'autre garçon. Que s'est-il passé ensuite? On ne le sait pas réellement à ce stade de l'enquête, mais en tout cas, quelques minutes plus tard, le jeune homme donc de 19 ans prévient son copain qu'il s'est passé quelque chose. L'amie de Shannon va la retrouver inconsciente dans la chambre. Shannon a alors perdu du sang. L'avocat de la jeune fille parle, lui, d'une mare de sang, ce que conteste la défense. Et c'est tous ces éléments qui vont être examinés par les enquêteurs. En tout cas, la jeune fille prévient les pompiers. Shannon est alors prise en charge. Elle est en arrêt cardio-respiratoire. Elle va être transférée à l'hôpital d'Amiens dans un état grave avec un pronostic vital engagé. Elle est plongée dans le coma. Elle est maintenue en vie par un respirateur. Et 3 semaines après les faits, donc le 27 mars, sa famille décide d'abréger ses souffrances et a donné l'autorisation à l'équipe médicale de la laisser partir.
L'enquête n'en est évidemment qu'à son commencement. On comprend par tout ce que vous venez de nous expliquer qu'il y a encore de très nombreuses interrogations dans cette affaire. 3 personnes ont jusqu'à présent été mises en examen. Que sait-on d'elles?
Ces 3 personnes ont été interpellées le 19 mars dernier, donc 12 jours avant le décès de Shannon. Il s'agit tout d'abord du jeune homme de 19 ans qui était avec la jeune victime dans la chambre. Il a été mis en examen pour viol ayant entraîné la mort de la victime. Les 2 autres personnes qui étaient présentes ce jour-là, donc l'autre garçon, celui de 18 ans, mais aussi la jeune amie de Shannon, la collégienne de 13 ans, eux aussi ont été mis en examen. Alors eux, pour abstention volontaire d'empêcher un crime, ils ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Jusqu'alors, ces 3 jeunes ne présentaient aucun antécédent judiciaire. Et l'avocate du principal mis en cause, donc le jeune homme de 19 ans, a d'ailleurs défendu l'innocence de son client. Je la cite, « Mon client n'a jamais employé une quelconque violence ou contrainte à l'encontre de Shannon. » Elle précise également, cette avocate, que son client, je le rappelle, qui est âgé de 19 ans, ne connaissait pas l'âge de la jeune fille, qu'il avait toutes les raisons de penser qu'elle était peut-être plus âgée, et cette dernière aurait pu lui donner un autre âge quand ils ont commencé à s'envoyer des messages sur les réseaux sociaux.
Ce point-là, il est absolument primordial. Le jeune homme de 19 ans a été mis en examen pour viol, une décision qui relève d'une nouvelle loi portant sur le principe de la présomption de non-consentement des adolescents âgés de moins de 15 ans.
Oui. Au départ, l'enquête, elle portait sur des faits de viol sur personnes mineures par un majeur. Les faits, après le décès de Shannon, ont été requalifiés en viol ayant entraîné la mort de la victime. Et pour justifier en fait cette qualification, la justice a retenu l'âge de Shannon, je le rappelle, 13 ans. La loi du 21 avril 2021 a instauré, comme vous l'avez dit, une présomption de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans. Rappelez-vous, c'est à la suite de cette affaire dans laquelle un homme de 28 ans a eu des rapports sexuels avec une enfant de 11 ans. Au départ, il n'était poursuivi que pour atteinte sexuelle. Après une bataille judiciaire, notamment menée par la famille de la jeune enfant, il avait été jugé et condamné pour viol et le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, ont voté cette loi qui, en gros, établit que les mineurs de moins de 15 ans n'ont pas le discernement nécessaire pour donner leur consentement lors d'un rapport sexuel. Sauf que dans le cas de Shannon, ce que la défense met en avant, c'est que le jeune homme n'avait pas conscience de l'âge réel de la jeune fille, qu'elle pouvait paraître plus âgée physiquement, qu'elle avait peut-être donné un autre âge. Et donc, c'est sur tout ça que les investigations vont aussi porter.
Il y a un autre élément qui est attendu par la justice, ce sont les résultats de l'autopsie.
L'autopsie, elle a été réalisée le 29 mars. Au moment où nous nous parlons, nous ne connaissons toujours pas les résultats. La justice attend ses conclusions, car elles vont pouvoir éclairer sur les causes de la mort de Shannon, sur les circonstances également des faits. Est-ce que Shannon a subi des violences? L'avocat de la famille de la victime parle de demander à ce que les faits soient requalifiés en actes de torture et barbarie. Et donc, il va falloir attendre ces résultats pour savoir dans quelles conditions Shannon a été violée, si elle a été violée, dans quelles conditions Shannon est décédée, et donc peut-être établir des responsabilités plus précises, notamment à l'encontre du jeune homme de 19 ans mis en examen. Les obsèques de Shannon, vous l'avez dit, Philippe, vont se tenir le 9 avril. Une marche blanche est aussi organisée. Les habitants de Caufry, où habitait Shannon, sont encore sous le choc de cette affaire. Bonjour, Marc Gégère.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint. Vous êtes par téléphone avec nous. La connexion, malheureusement, est un petit peu mauvaise et on s'excuse pour la qualité du son. Marc Gégère, vous êtes avocat à Carpentras. Vous êtes aussi l'auteur du livre « Le crime et les enfants, 32 procès sous le regard d'un avocat. Vous avez entendu le récit de cette affaire, ces détails douloureux qui existent malheureusement dans ces affaires de viol, de meurtre. Est-ce que l'âge de la victime apporte davantage d'effroyable à un crime qui est déjà effroyable?
Oui, bien sûr, vous avez l'habitude de dire que l'enfance, c'est l'innocence par excellence. Donc, quelque part, atteindre un enfant, c'est atteindre l'un des principes clés qui régit notre société. On ne touche pas aux enfants, on ne touche pas aux personnes âgées ou fragiles. Donc le fait d'atteindre un enfant, c'est toujours évidemment un élément supplémentaire dans l'effroi et dans l'horreur.
La famille de Shannon est dévastée. On a contacté les proches. Ils nous ont fait part de leur état d'esprit. De par votre expérience, justement, dans quel état d'esprit peuvent se trouver les proches des victimes? Est-ce que les conditions qui ont entouré la mort de leurs proches, les circonstances, le mode opératoire, ajoutent encore de la douleur à ces familles?
Bien sûr, plus on va rentrer dans le sordide, si je veux dire, plus ça va être compliqué pour les victimes d'accepter ça. D'ailleurs, le terme est mal choisi, c'est inacceptable et c'est jamais accepté par les familles. Il y a des, vous savez, quand on est avocat et qu'on accompagne ce genre de personnes, des victimes d'un proche qui est paru dans des conditions dramatiques, on a aussi un travail de protection. Je pense qu'il faut mettre de côté un certain nombre d'éléments, et non pas les éléments essentiels, mais ça sert à rentrer dans les détails les plus sordides, sauf si, comme j'ai déjà eu le cas parfois, certains membres de la famille, vous savez, ils sont pas du tout devant la douleur. Il y a des gens qui veulent tout savoir. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir. Il y a des gens qui nous donnent juste les grandes lignes, voir comment ça se passe. Donc, ce qu'il faut, c'est être capable de s'adapter à chaque victime qu'on accompagne pour faire en sorte qu'on n'ajoute pas, nous, d'horreur et de la souffrance à une souffrance déjà existante et qui va perdurer longtemps.
Dans l'affaire dont nous parlons aujourd'hui, la mort de Shannon, on voit que la défense va tout faire pour faire tomber les accusations de viol. Et elle va tout faire aussi pour faire tomber les éléments qui peuvent peser sur le mis en cause. Est-ce que c'est entendable pour une famille? Comment vous, avocat, vous pouvez leur expliquer que le droit, la loi sont exemples de sentiments, que la loi, c'est des textes et qu'il n'y a pas forcément d'émotion dans la loi?
Et si vous voulez, il faut se rappeler par exemple que lorsque vous faites serment au juré de cour d'assises, on demande de mettre de côté leur émotion et de n'appeler que leur raison. Et c'est en fait un peu ça. Si on laissait rentrer l'émotion, presque plus besoin de procès, parce que tout le monde serait dévasté par l'horreur des faits. Par voie de conséquence, les décisions seraient dramatiquement exemplaires, si je puis dire. Le travail à ce moment-là d'avocat qui accompagne une famille de victimes, c'est de faire en sorte qu'ils acceptent l'idée que cette personne va être jugée pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il est et par rapport à son parcours de vie. Souvent, je fais le parallèle, c'est-à-dire que je leur dis, si c'était l'un de vos proches, qui était dans une situation où on l'accuse de quelque chose. Vous auriez besoin qu'on explique que cet enfant, quand il était petit, il était frappé par son père, il avait des difficultés à l'école, etc. Encore, il ne s'agit pas d'excuser, il s'agit d'expliquer. Je crois que le maître mot, il est là. Il faut comprendre aux familles qu'on accompagne qu'il ne s'agit pas de chercher des excuses, il s'agit de chercher des éléments et des clés de compréhension. Encore une fois, les gens font des actes monstrueux, ce n'est pas pour ça qu'ils sont des monstres. C'est trop facile, ça serait trop truc de raisonner comme ça. Et il y en a beaucoup moins. Malheureusement, la plupart des actes monstrueux sont commis par des gens qui finalement ont un parcours de vie lambda. Regardez l'histoire qui nous occupe. Ce jeune homme n'a jamais fait parler de lui. A priori, il est exempt de toute poursuite et de toute condamnation. Pour autant, il vient de poser un acte qui est particulièrement difficile à supporter.
Justement, comment un avocat peut accompagner justement un jeune homme, il a 19 ans, qui n'a jamais rencontré la justice, qui n'y connaît rien, comment on l'accompagne?
Déjà, essayer de lui faire prendre conscience de l'importance de l'acte. On a souvent chez des très jeunes gens une insouciance qui fait qu'il n'y a pas une prise de conscience de la gravité des faits. Donc le premier travail, il est là. Il est de prendre conscience à cette personne de la gravité des faits pour lesquels il est poursuivi. C'est le premier point. Et puis ensuite, c'est d'être aussi un petit peu son, entre guillemets, garde du corps par rapport à l'appareil judiciaire qui est une machine à pied. Il faut bien le dire. Quelle que soit la position qui est la vôtre dans le cadre d'une procédure judiciaire, la justice et l'appareil judiciaire est d'une cruauté implacable parce que justement, ne s'embarrasse pas des émotions et des sentiments. Ce qui importe, c'est la matérialité des faits, est-ce qu'ils sont situés, oui ou non. Donc votre travail à ce moment-là consiste à faire en sorte d'expliquer à ce jeune toutes les étapes qu'il va rencontrer, que ce soit les auditions chez le juge d'instruction ou encore une expertise psychologique ou une expertise psychiatrique, sont des éléments essentiels lors du jugement.
Et vous, même si vous êtes un professionnel, comment vous vous protégez face à des affaires aussi délicates?
Il n'y a pas de recette, c'est compliqué. Je pense qu'on a tous ressources et nos moyens de nous restaurer un peu. Pour ce qui me concerne, moi j'ai l'habitude de dire que je ne peux pas être étanche aux émotions que j'accompagne. Mais je me laisse traverser par ces émotions et j'essaye de faire en sorte de ne pas les garder. Pour ça, on a tous nos petits trucs. J'ai trois enfants qui m'ont longtemps rechargé le soir quand je rentrais chez moi. Je fais sport, j'essaye d'exulter un peu physiquement, évacuer. Et puis, le fait d'écrire un livre n'est pas non plus indifférent. C'est aussi essayer d'évacuer une partie de ces peurs qu'on accompagne. Il ne faut jamais se tromper. On n'est pas évidemment les éléments principaux. Nous ne sommes pas ceux qui souffrons. Nous les accompagnons. Donc il ne faut pas non plus se tromper et faire de cette souffrance une souffrance qui est la vôtre. Il faut l'accompagner, être capable de l'écouter. Pourquoi je me fais traverser par les émotions? C'est que c'est ma nourriture au moment où je vais plaider. Ces éléments-là qui me permettront d'être sincère devant un jury de cour d'assises. Mais en dehors de ça, il faut arriver à les évacuer. Et puis toujours se dire, c'est un élément important, nous évoluons dans un monde qui n'est pas représentatif de l'intégralité de la population d'une nation. Nous évoluons dans le monde de ceux qui sont exceptionnels au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui commettent des actes qui sont des actes absolument incroyables, exceptionnels et très rares. Encore une fois, par rapport à la population dans sa globalité, ces actes-là sont commis par une petite partie, et heureusement pour nous, une toute petite partie de la population. Pas pour autant qu'il faut les mettre de côté et les passer sous silence, au contraire. Mais pour autant, il faut bien se rappeler qu'on vit dans un monde d'exception.
Un grand merci, Maître Marc Tchéger, d'avoir été avec nous pour ce décryptage. Affaire suivante, le podcast inédit, c'est bien sûr à retrouver sur le site bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.